Radio Franca.
Radio Franca.
Radio Franca.
Radio Franca.
Radio Franca.
Radio Franca.
Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur Radio Franca et sur la fréquence 91.7. Nous sommes la classe de 4e C du Collège Pierre-Suc. Nous prenons la parole pour vous parler de l'esclavage. Car aujourd'hui, nous sommes le lendemain de la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, le 11 mai. Maintenant, nous allons vous laisser avec le premier groupe qui va vous parler en détail de ce sujet. Je vais laisser la parole à Aurélien qui va nous parler de la traite négrière. À Yael, pardon.
Bonjour à tous, nous sommes en direct sur Radio Franca. Notre groupe composé d'Aurélien, Aurore, Estelle, de Moyel et quelqu'un de plus expérimenté, Pierre, va vous parler de la traite négrière et de l'esclavage. Je vais maintenant vous présenter ce qu'est l'esclavage. Je vais commencer par l'origine de l'esclavage. Il existait déjà à l'Antiquité, vu qu'on le retrouve dans les récits, aussi bien égyptiens que grecs ou romains. L'esclavage est mentionné dans les premières traces écrites de l'homme, comme l'atteste le code d'Hammurabi exposé au Louvre. Passons maintenant à une définition. L'esclavage apporte une main d'œuvre peu chère, car elle a seulement besoin de nourriture et de logement, mais aussi efficace, car elle est privée de toute liberté et qu'elle peut effectuer les tâches les plus pénibles.
Merci Yael pour nous avoir donné cette définition et l'origine de l'esclavage, ou plutôt sa première apparition dans l'histoire. Poursuivons maintenant, chers auditeurs, en donnant la parole à Aurore et Estelle, qui, elles, vont nous parler du commerce triangulaire et d'une figure très importante dans la lutte contre l'esclavage. À vous les filles.
La déportation des Africains se base sur le principe du commerce triangulaire. Les esclaves sont enlevés de leur pays, ils sont échangés contre des produits de faible valeur, puis ils sont emmenés en Amérique pour être vendus contre des produits de haute valeur. Les produits échangés sont emmenés en Europe. Il y a deux sortes d'esclaves, les nègres de jardin et les esclaves de case. Les nègres de jardin sont les plus nombreux. Ils travaillent du matin au soir, sous le soleil, dans les plantations, et les contremaîtres leur donnent des coups de fouet. Les esclaves de case travaillent dans la maison du maître, le plus souvent comme domestiques. À la fin du XVIIIe siècle, certains esclaves sont éduqués par les maîtres. Parfois, ils sont libérés. Le maître a droit de vie ou de mort sur son esclave. En cas de fuite de l'esclave, les maîtres peuvent choisir de leur couper les oreilles ou de leur flétrir l'épaule. Je vais maintenant laisser la parole à Estelle.
On amène les esclaves en Amérique pour travailler dans les mines d'or et d'argent, pour la canne à sucre et aussi pour le coton. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières, dont Voltaire et Montesquieu, dénoncent l'esclavage. En 1791, une révolte générale a lieu contre l'esclavage, avec un ancien esclave noir, Toussaint Louverture. Il est né vers 1743, près de Cap Français, et est mort en captivité en 1803, à la Cluse de Mijoux, à cause du changement du climat, vu que ce n'était pas le même qu'en Amérique et en Europe, car il faisait trop froid. C'est un homme politique français des Antilles.
Merci les filles. Maintenant, je vais passer à Pierre, qui, comme l'a dit Yael dans l'introduction, tu t'y connais beaucoup plus que nous sur le sujet. Donc, pour cela, Pierre, j'ai quelques questions. Donc, la première, aux Amériques, à quoi servaient le plus les esclaves?
Alors, les esclaves servaient beaucoup plus dans les plantations de canne à sucre, car ces plantations demandaient énormément de main-d'œuvre en raison de leur grande surface de champ et de leur grande distillerie.
D'accord. Bon, pour la deuxième question, comment était la vie des esclaves dans les fameuses plantations que tu viens de citer?
Alors, la vie des esclaves était très dure car ils travaillaient toute la journée sous le soleil et subissaient les mauvais traitements des maîtres et des contre-maîtres. Leur hygiène de vie était très mauvaise car ils ont fait des rations alimentaires précaires, voire même très précaires.
D'accord. Donc, pour la troisième question, quand s'est arrêté l'esclavage?
Alors déjà, on peut voir qu'en 1791, il y a une première révolte à Saint-Domingue, dirigée par Toussaint Louverture. Puis en 1794, il y a eu, pour la première fois en France, voté par l'Assemblée, l'abolition de l'esclavage. Mais ça va être supprimé en 1802 par Napoléon Bonaparte, quand il prendra le pouvoir. Et en 1848, l'Assemblée va voter définitivement l'abolition de l'esclavage en France par le député Victor Schoencher. Puis après, en 1861, ce sera Abraham Lincoln qui va abolir définitivement l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, mais ce qui va entraîner la guerre de sécession, parce qu'en fait, les États du Sud ont les plus grandes plantations que celles du Nord.
D'accord. Une quatrième question. Quels sont les plus grands empires coloniaux? Et cette question est un peu en deux parties. La deuxième partie est pourquoi était-il là-bas?
Alors déjà, on peut observer qu'au XVIe siècle, il y avait l'Espagne et le Portugal. Puis au XVIIe siècle, sera suivi par la France, l'Angleterre et la Hollande. Et alors, en fait, ils sont en Amérique parce que déjà, ils vont exploiter les mines d'or et d'argent, ou alors faire des plantations qu'on ne peut pas avoir en Europe en question du climat.
D'accord. Merci, Pierre, d'avoir répondu à mes questions. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté notre groupe. Nous allons maintenant vous laisser avec une petite pause musicale, un work song, c'est Rosie.
Merci à Pierre, Aurélien, Estelle, Aurore et Yaël. Maintenant, je vais laisser la parole au groupe qui vont vous parler des philosophes contre l'esclavage. Je laisse la parole à Julien.
Merci Edith. Bonjour chers auditeurs, c'est Julien sur Radio Franca pour une nouvelle chronique. Passez un agréable moment à nous écouter. Bonjour à tous, surtout à vous Fabien.
Bonjour.
Nicolas.
Bonjour.
Nouria.
Bonjour.
Et Amélie.
Bonjour.
D'être venus ici sur Radio Franca. Donc, nous allons parler des philosophes des Lumières en ce lendemain de la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Pour commencer, nous allons demander à Fabien de nous parler de Denis Diderot. La parole est à vous.
Denis Diderot, né en 1713 à Langres et il est mort en 1784 à Paris. C'est un philosophe français qui dénonce l'esclavage et les injustices de l'Ancien Régime et de la monarchie absolue. Il critique les esclaves qui soupirent sans cesse après leur patrie. Dans son Histoire des deux Indes, écrite en 1770, Diderot dit que les nègres sont une espèce d'hommes nés pour l'esclavage. Et il dit aussi « Vos esclaves n'ont besoin ni de votre générosité, ni de vos conseils pour briser le joug sacrilège qui les opprime. » Il dit que les esclavagistes au XVIIIe siècle, pour justifier la traite des Noirs, étaient que les esclaves étaient plus heureux en Amérique qu'ils ne l'étaient en Afrique. Il disait aussi pourquoi les esclaves reprennent-ils leur liberté dès qu'ils peuvent. Diderot disait que si on abolissait l'esclavage des nègres, les colonies seraient bientôt ruinées. Donc on peut dire que Denis Diderot est pour l'esclavage.
Merci Fabien de nous avoir parlé de Diderot. Maintenant nous demandons que Nicolas nous présente Voltaire. Allez-y.
Je vais vous présenter François-Marie Arouet. Plus connu sous le nom de Voltaire, il est né en 1694 à Paris et il meurt en 1778 à Paris aussi. C'est un des plus grands écrivains et philosophes français du siècle des Lumières. Il a fermement condamné l'esclavage et il s'est enthousiasmé pour la libération de leurs esclaves par les Quakers de Pennsylvanie en 1789. Les Quakers sont connus sous le nom de Société des Amis. Ils condamnent l'achat et le fait de garder des esclaves. En compagnie de son avocat et ami Christin, il a lutté lors des dernières années de sa vie pour la libération des esclaves du Jura qui constituaient les derniers serfs présents en France et qui étaient soumis aux moines du chapitre de Saint-Claude dans le Jura. Il perdit ce combat. Les serfs ne furent affranchis que lors de la Révolution française. Dans son œuvre « Candide », écrite en 1759, qui est un conte en prose où il critique la vision optimiste, dans le chapitre « Le nègre de Suriname », il dénonce l'esclavage, l'atteinte aux droits de l'homme et à la liberté. Il critique les stratégies pour convaincre et persuader les gens que l'esclavage est bien. Il dénonce aussi les personnes célèbres qui favorisent l'esclavage. Mais il a écrit d'autres livres qui critiquent la monarchie et qui ont aidé à favoriser la révolution.
D'accord, c'était très bien expliqué. Merci Nicolas. Donc, Nouria, vous allez nous parler de Condorcet, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Il est né en 1743 dans le sud de la France. Il est mort en 1794 à Bourg-la-Reine. Il est mathématicien, philosophe, économiste et homme politique français. Il est célèbre comme philosophe des Lumières. Il a proposé une réforme de l'éducation avec une école laïque où l'Église n'intervienne pas. Il a défendu les droits de la femme et il a été accompagné par sa femme Sophie de Grouchy et Olympe de Gouges. Il a soutenu les droits de l'homme et les grandes idées des philosophes de son époque comme l'abolition de l'esclavage, la peine de mort et l'égalité. Il a écrit un livre sur l'esclavage, Réflexion sur l'esclavage des nègres, qui a été écrit en 1781. Ce livre dénonce la pratique de l'esclavage qui est jugée comme un véritable crime. Donc, nous pouvons dire que Nicolas de Condorcet est contre l'esclavage. Dans ce livre, Condorcet dit clairement, je cite, « l'injustice de l'esclavage des nègres ». Les arguments contre l'esclavage sont, je cite, « c'est un crime de revendre un homme. Un homme n'est pas d'une propriété. Ce sont les Européens qui déclenchent les guerres en Afrique pour avoir des prisonniers. Aucune loi ne prévoit l'esclavage.
Merci beaucoup, Nouria. Et pour finir, Amélie va nous parler de Montesquieu. La parole est à vous.
Montesquieu était un grand savant et philosophe du siècle des Lumières, magistrat et écrivain français que les études destinaient à être parlementaire. Il a été l'auteur de nombreux mémoires, de romans parmi lesquels Les Lettres persanes, qui ont été écrites en 1721, et De l'Esprit des Lois. De l'Esprit des Lois, qui a été publié en 1748, c'est un ouvrage d'analyse qui est constitué de 31 livres. Dans cet ouvrage, Montesquieu y conteste certains aspects de la société du XVIIIe siècle, puis avance des idées pour une monarchie libérée, le respect des lois et de la liberté individuelle. Il condamne l'esclavage et la torture. Dans L'esclavage des nègres, ce texte est une prise de position de Montesquieu contre l'esclavage, où l'auteur feint de se trouver du côté des défenseurs de l'esclavage. Il propose ainsi, en 9 paragraphes bien séparés, 9 arguments. Cependant, une lecture plus attentive permet de distinguer quelques vices de forme dans le raisonnement proposé. Ce texte est vraiment très ironique. Je cite « Ce dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. Cet argument est absurde, il ne veut absolument rien dire. » Montesquieu est donc pour l'abolition de l'esclavage.
Merci Amélie de nous avoir parlé de Montesquieu. La chronique est finie, nous vous souhaitons une bonne journée. N'oubliez pas de rester sur Radio Franca 91.7 FM, car d'autres élèves de la classe de 4e C vont vous parler de la musique. En attendant, nous allons vous faire écouter une chanson sur la Révolution française, les années Lumière.
Merci au groupe qui nous ont parlé des philosophes contre l'esclavage. Maintenant, je vais laisser la parole au groupe qui va nous parler de la musique, comme l'a dit Julien. Je vais laisser la parole à Théodore. À Ryan.
Bienvenue sur notre chronique musicale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le gospel, le jazz et le negro spirituel. Pour vous présenter ceci, je suis en compagnie de Théodore, Kevin, Léa et Lara.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour commencer, je vais vous apprendre quand et comment le gospel et le negro spirituel sont nés. Le gospel et le negro spirituel sont des chants religieux pratiqués par les fidèles des églises noires américaines. On parle donc de musique afro-américaine. Ces chants sont étroitement liés à l'histoire du peuple noir. Les esclaves africains partaient vers le continent américain pour y travailler dans les plantations. Les esclaves n'ont pu amener qu'avec eux que leur culture africaine, chants, danses, textes. Maintenant, Lara va vous parler de l'importance de la musique pour les esclaves.
Pour les esclaves dépouillés de leurs biens, la musique leur a permis de préserver leur culture, leur origine. Les peuples noirs, en mélangeant des éléments musicaux hérités de l'Afrique avec des éléments empruntés et adaptés de la culture blanche, musicale blanche, va ainsi donner naissance au premier chant de style jazz. Il y a donc un métissage musical entre la tradition musicale africaine et la culture américaine. Le métissage musical est une influence mutuelle de musique en contact les unes avec les autres, venant d'époques, de styles, de cultures ou de lieux différents. Cela permet la création et l'enrichissement de styles musicaux.
Merci. Maintenant, nous allons faire une pause musicale, en écoutant une chanson très connue, Deep River, par Marian Anderson. Théodore va vous parler de la chanson plus en détail et par la même occasion, il va vous expliquer qu'est-ce que le négro spirituel.
Bonjour. Ce chant transmet l'espoir des esclaves noirs comme par exemple rentrer chez eux avec la chanson Deep River. Cette chanson compare l'océan Atlantique à un fleuve et lorsqu'on traverse celui-ci, on y devient libre. Cette chanson parle aussi de Dieu et de l'Évangile. On peut retrouver des mots comme « Lord » qui signifie « Dieu », « Promise Land » qui signifie « Terre promise ». On peut retrouver le mot « Gospel » qui signifie « Évangélique ». Parlons maintenant du négro spirituel. Le négro spirituel est né à cause de l'arrivée des esclaves noirs en Amérique au XVIIe siècle. Ce type de chant est à la base de beaucoup de styles musicaux américains, tels que le jazz, le gospel et bien d'autres. Ces chants étaient certes évangéliques, mais ils ont été modifiés par les esclaves noirs. Ce sont donc des chants afro-américains. Parlons de son fondement. Les premiers esclaves noirs, au départ, n'étaient pas instruits à la religion. C'est seulement vers la fin du XVIIe siècle que les esclavagistes jugeront nécessaire d'évangéliser les esclaves. Les esclaves finissent par écrire plusieurs chansons reprises du Premier Testament. Je donne maintenant la parole à Lara qui va vous parler du jazz.
Le jazz, c'est un dérivé du négro spirituel qui a été créé à la fin du 19e siècle en Nouvelle-Orléans, capitale de la Louisiane, et à Saint-Louis dans le Missouri. Son origine remonte à la guerre de sécession, car les Noirs ont réussi à apprendre des instruments issus des fanfares de l'armée, des trombones, des claires claires ou encore des trompettes. Le jazz commençait à être connu dans les quartiers populaires de la Louisiane et lors de grandes occasions comme les mariages, enterrements, etc. Des orchestres de jazz venaient chanter pour animer l'événement. Ce style musical est aujourd'hui un des plus connus dans le monde grâce notamment à Louis Armstrong ou encore Billie Holiday, mais aussi dans son importance contre la ségrégation raciale. Le chant Godin de Moses de Louis Armstrong, qui signifie « Descends Moïse », ce chant raconte l'histoire de Moïse demanda au Pharaon de laisser partir les Hébreux. Ainsi, les esclaves comparaient les maîtres au Pharaon et les Hébreux aux esclaves.
Après avoir écouté « Godin de Moses » de Louis Armstrong, Léa va vous présenter la biographie de ce chanteur, car il a écrit des chansons très importantes contre l'esclavage et la ségrégation raciale.
Louis Armstrong est né en 1911 à la Nouvelle-Orléans et mort en 1971 à New York. Louis Armstrong meurt d'une crise cardiaque en juillet 1971, à l'âge de 69 ans. Armstrong peut être considéré comme l'inventeur du jazz chanté et joué de sa voix rappeuse si reconnaissable de l'improvisation. Liant les paroles et la mélodie des chansons de manière expressive, il était également doué pour le scat. Claude Nougaro lui rend hommage dans sa chanson Armstrong, qui reprend la mélodie de Godin de Moses. Le musicien Irakli est le plus grand spécialiste français d'Armstrong. Il lui rend hommage depuis plus de 30 ans.
Merci. Maintenant, nous allons passer à la seconde partie de la chronique avec Kevin, qui lui va nous parler du gospel.
Bonjour. Le gospel est un genre de musique chrétienne avec des dominantes vocales qui varient selon la culture. Il s'est développé en même temps que le blues primitif. Les artistes modernes de gospel ont aussi intégré des éléments de musique soul. L'origine de ce style provient des Afro-Américains chrétiens évangés suivant le négro spirituel. Le mot gospel du vieil anglais gospel signifie évangile. Les gospel hymnes sont une première étape vers les gospel songs de 1930. Ce sont des hymnes traditionnels et des mélodies en vogue. Depuis les années 1870, les instruments sont de plus en plus présents aux offices. Orgue, harmonium, instruments avant, claquement des mains et mouvements du corps. Au début du XXe siècle, voit surgir une véritable effervescence artistique pour les Noirs. Les gospel hymnes deviennent des gospel songs dont les bases sont à la fois simples et sophistiquées. Mais au début de ce siècle, on ne peut pas encore véritablement parler de gospel. Né en terrain nord-américain dans un contexte anglophone marqué par la lutte contre l'esclavage, le genre musical du gospel s'est diversifié depuis.
Merci Kevin. Maintenant, nous allons faire une nouvelle pause musicale en écoutant Happy Day.
Okay, you guys, relax, okay? Take a deep breath. Be fine, don't worry. You ready?
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Come here.
Day.
Come here and stand over here.
When Jesus washed.
When Jesus washed.
When Jesus washed.
When Jesus washed.
Après avoir écouté Happy Day, Lara va vous parler de la chanson plus en détail.
Happy Day est un arrangement gospel de 1967 provenant d'un hymne du XVIIIe siècle inspiré des Actes des Apôtres, popularisé par The Edwin Walking Singers, Quincy Jones, Jonah Bess ou Etta James, on entre autres également interprété la chanson. Le 30 avril 1972, sur la scène du Ré à Amsterdam, les Edwin Walking Singers chantent « Oh Happy Day » accompagné d'un groupe d'enfants, les Poppies, devant 5000 personnes. Ce chant est aussi entendu dans Sister Act, Act 2, film de 1993 de Bill Duke avec l'actrice américaine Whoopi Goldberg.
Merci Lara. Maintenant, nous allons écouter le grand Bob Marley avec son titre « Get Up, Stand Up ». Maintenant, Léa va vous présenter la biographie de ce grand chanteur, car lui aussi, tout comme Louis Armstrong, il a écrit des chansons très importantes contre le racisme et la ségrégation raciale.
Bob Marley est né en 1945 à Nice Mill et il est mort en 1980 à Miami. C'est un auteur, compositeur, interprète, chanteur et musicien jamaïcain. Bob Marley rencontre de son vivant un succès mondial. Il a fait découvrir au monde le reggae, un riche dérivé du blues, qui a considérablement influencé la musique populaire occidentale, exprimant à l'origine l'affirmation de la dignité et la valorisation d'une identité noire pour son peuple bafoué par des siècles d'esclavage. Il a dénoncé la négation et la personne noire, la falsification des cultures afro-américaines par le pouvoir et la religion de l'Occident. Il a souhaité montrer à l'humanité la falsification de l'histoire du peuple noir.
Sur ce, nous allons laisser part au prochain groupe qui, eux, vous parleront des écrivains. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Franca.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift.
Comme l'a bien dit Ryan, je vais laisser place au groupe des écrivains contre l'esclavage. Je donne la parole à Hugo.
Bonjour, vous êtes actuellement sur Radio Franca 91.7 FM. Nous sommes en direct du collège Persuc, donc avec Hugo Nolf, Julie Ferrari, donc Antoine et Edith. Bonjour.
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 Donc ils vont vous parler aujourd'hui de la lutte contre l'esclavage. Et, donc Julie, tu vas parler de Aimé Césaire. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Donc, je te laisse expliquer le poème.
Donc, je vais vous lire un poème pour saluer le tiers-monde. L'Afrique n'est plus au diamant du malheur, un noir cœur qui se trie. Notre Afrique est une main hors du ceste. C'est une main droite, la paume devant et les doigts bien serrés. C'est une main tuméfiée, une blessée main ouverte, tendue. Brune, jaune, blanche, à toutes mains, à toutes les mains blessées du monde.
Donc Aimé Césaire, qui est né en 1913 à Basse-Pointe en Martinique, il est mort à l'âge de 94 ans en 2008 en Martinique également. Donc il a été écrivain, homme politique, poète, dramaturge, biographe. Il a été le fondateur et représentant majeur du mouvement littéraire de la négritude, puis député de la Martinique et maire pendant 56 années consécutives, de 1945 à 2001. Donc je te laisse expliquer.
Alors, ce poème pour saluer le tiers-monde, c'est un extrait de Ferment. Ça évoque de la souffrance des esclaves noirs à travers le champ lexical.
ceste, malheur, strie, main tuméfiée, une blessée. Ça exprime aussi un devoir de mémoire. Césaire montre la révolte, le combat avec la métaphore des doigts serrés, comme un poing du peuple noir. Ça montre aussi le combat, mais aussi la fraternité et réconciliation, main ouverte, tendue aux mains de toutes les couleurs, à tous ceux qui sont opprimés.
Et ceste, tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît ?
Ah, alors ceste, c'est des attaches de fer qu'on mettait aux poignets des esclaves.
D'accord. Donc, merci Julie. Donc maintenant, Hugo.
Oui, donc je vais vous parler d'un poème, To a Dark Girl.
D'accord. Donc c'est de Léopold Senghor, Léopold Sédar Senghor, donc, qui est né en 1906 à Joal, au Sénégal, et mort en 2001 à Verson, en France. Donc il est pareil, poète, écrivain, homme politique. Il a été le premier président de la République du Sénégal. Donc je te laisse lire son poème.
Tu as laissé glisser sur moi l'amitié d'un rayon de lune, et tu m'as souri doucement. Plage au matin éclose en galets blancs. Elle règne sur mon souvenir, ta peau olive, où soleil et terre se fiancent, et ta démarche, mélodie, et tes finesses de bijoux sénégalais, et ton altière majesté de pyramide. Princesse, dont les yeux chantent la nostalgie des splendeurs du Mali sous les sables ensevelis.
Donc tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît ?
Oui. Donc dans ce poème, Léopold Sédar Senghor évoque le fait que la beauté n'est pas réservée aux blancs, mais également aux noirs, en décrivant la beauté physique d'une jeune femme noire, commençant par sa peau, sa démarche et ses bijoux. Il rend les noirs fiers d'eux et il les complimente, alors qu'ils ont été pour la plupart du temps dénigrés. Il les remet sur un pied d'égalité avec les blancs, et les rehausse même un petit peu par rapport à eux.
Et tu pourrais savoir si il était, s'il aimait cette femme ?
Personne n'en sait rien, mais il devait sûrement bien l'aimer.
D'accord. Si vous nous rejoignez, vous êtes en direct des élèves du collège Pierre Suc qui vont vous parler de la lutte contre l'esclavage. Donc après ce magnifique extrait, nous allons écouter donc Antoine qui va nous présenter donc un texte de Maurice Condé.
C'est ça, Tite ou pas sorcière.
D'accord. Donc Maurice Condé, juste avant, qui est né en 1937 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Elle a été écrivaine et professeure d'université et elle a encore aujourd'hui 80 ans. Donc je te laisse.
On pendit ma mère. Je vis son corps tournoyer aux branches basses d'un fromager. Elle avait commis le crime pour lequel il n'est pas de pardon. Elle avait frappé un blanc. Elle ne l'avait pas tué cependant. Dans sa fureur maladroite, elle n'était parvenue qu'à lui entailler l'épaule. On pendit ma mère. Tous les esclaves avaient été conviés à son exécution. Quand la nuque brisée, elle rendit l'âme. Un chant de révolte et de colère s'éleva de toutes les poitrines, que les chefs d'équipe firent taire à grands coups de nerf de bœuf. Moi, réfugié entre les jupes d'une femme, je ressentis se solidifier en moi comme un sentiment qui ne devait plus me quitter, mélange de terreur et de deuil. On pendit ma mère. Quand son corps tournoya dans le vide, j'eus la force de m'éloigner à petits pas, de m'accroupir et de vomir interminablement dans l'herbe.
Mais non, c'est pas très joyeux.
Non, pas tellement.
Et tous les esclaves étaient amenés à regarder ?
Oui, tous les esclaves avaient été conviés à cette exécution pour montrer l'exemple.
J'aurais juste une question. Est-ce que Maryse Condé, c'est la petite fille ou c'est juste une histoire ?
Bah, on ne sait pas tout à fait si Maryse Condé, c'est la petite fille, mais on pense qu'à travers cet extrait, elle s'est reconnue.
D'accord.
D'accord. Merci Antoine. Donc maintenant, nous allons passer avec Edith qui va nous lire un poème de David Diop.
Mais avant, il faudrait peut-être qu'il nous explique
le texte. Oui, expliquer l'histoire parce que...
Oui, désolé.
Pas de souci. C'est l'histoire d'une enfant, Tituba, à travers laquelle Maryse s'est reconnue car elle est traumatisée par un terrible événement, la pendaison de sa mère devant elle. La mère de Maryse Condé avait été pendue car dans sa colère d'être maltraitée, elle s'en était pris à un maître, autrement dit à un blanc. Et maladroitement, elle lui a juste entaillé l'épaule, ce qui est injustifiable du point de vue de Maryse, car pour avoir seulement blessé quelqu'un, sa mère ne devait pas être pendue. On ressent à travers cet extrait du roman, Moitié Touba Sorcière, de la tristesse, de la peur, mais surtout de la colère.
Merci beaucoup Antoine. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons passer à Edith qui va nous lire un poème de David Diop, donc un texte un peu plus joyeux. David Diop est né en 1927. Est mort en 1960. Il a été élevé par ses 5 frères et sœurs et par sa mère. Son père est décédé. Donc il a vécu son enfance dans les hôpitaux en France. Il a été malade très longtemps.
Et ensuite, dans les hôpitaux, il a découvert la passion pour la littérature, justement avec un poème que va nous lire Edith.
C'est tout à fait ça. Moi, je vais vous lire un poème qui s'appelle Afrique. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère, au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connue, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi, ce dos qui se courbe et se couche sous les poids de l'humilité, ce dos tremblant à zèbres rouges, qui dit oui au fouet sur les routes de midi? Alors gravement, une voix me répondit. Fils, impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre-là, splendidement, seul au milieu des fleurs, blanche et fanée, c'est l'Afrique, ton Afrique, qui repousse patiemment et obstinément, et dont les fruits ont peu à peu la mer s'avère de la liberté.
Merci Edith. Donc tu pourrais nous expliquer ce poème.
Afrique, c'est un poème engagé qui parle de la souffrance des esclaves qui ont duré l'esclavage d'ailleurs. Diop y personnifie beaucoup l'Afrique pour lui donner plus d'importance et montrer l'amour qu'il porte à ce pays. Il évoque aussi l'image de l'Afrique d'avant l'esclavage, un pays sans souffrance, un Afrique majestueux, beau et combatif. Il finit par ce vers que j'aime beaucoup. Il dit que la mer saveur de la liberté. Oui, il veut dire que l'Afrique retrouvera une liberté tardivement, mais malheureusement, elle aurait jamais dû perdre cette liberté.
D'accord, bon, merci beaucoup, chers auditeurs et chères auditrices.
Excusez-moi, tout à l'heure, je me suis trompée. Ce n'est pas la mère de Marie Scondé qui est représentée. C'est un roman qui fait une petite jonction.
D'accord. Donc, nous avons fini. Merci de nous avoir écoutés. Et nous vous souhaitons une bonne journée sur Radio Franca. Donc nous nous quittons avec une musique de Bob Marley qui s'intitule Rédemption. Donc c'est une chanson qui parle du pardon. Voilà.
Alors maintenant, nous allons passer au dernier groupe qui va parler de l'esclavage moderne et le travail forcé. Je vais laisser la parole à Kenzo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce 11 mai qui est la date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage sur Radio Franca 91.7. Nous sommes la classe de 4E.
Nous sommes la classe de 4e C et nous sommes en compagnie de Maureen, Céline, Mathéo, Tristan et Kenzo. Nous allons vous parler de l'esclavage moderne.
C'est un fléau qui touche 46 millions de personnes dans le monde. Mais qu'entend-on par l'esclavage moderne exactement ?
Il s'agit d'une situation d'exploitation où une personne est privée de sa liberté et est considérée comme la propriété d'une autre. La personne réduite en esclavage peut être achetée, vendue, forcée de travailler, sans aucune rémunération et sans aucune considération de ses droits humains.
Mais qui est concerné et quel type d'esclavage moderne rencontrons-nous ?
Aujourd'hui, une victime sur trois est un enfant et il y a des formes d'esclavage comme par exemple l'esclavage pour dette, l'esclavage sexuel, le mariage forcé est une forme d'esclavage moderne, l'esclavage domestique, les enfants soldats, la mendicité et la prostitution forcée ou encore le trafic d'organes.
L'esclavage moderne est donc différente forme. Dans quel pays est-il le plus rencontré ?
Aujourd'hui, 58% des victimes se concentrent dans 5 pays d'Asie et c'est l'Inde qui tient le haut du classement avec 18 millions d'esclaves, suivi par la Chine, le Pakistan, le Bangladesh et l'Ouzbékistan. D'après des estimations, la Corée du Nord est le pays qui possède la plus grande proportion d'esclaves avec 4,37% de sa population.
Mais pourquoi ces pays ont besoin de l'esclavage ?
Eh bien, car les esclaves ne sont pas payés, ils rapportent donc beaucoup d'argent à l'esclavagiste.
L'esclavage moderne est-il comme au moment de la traite négrière ?
Non, contrairement à l'époque de la traite négrière, le critère déterminant n'est pas la couleur de peau, ni l'origine, mais la vulnérabilité qui permet une emprise totale sur une personne. La journaliste Florence Aubenas a fait l'expérience d'une forme d'esclavage moderne pour réaliser son récit le quai de Ouistreham. Elle décide d'enquêter à Ouistreham dans une société de nettoyage qui s'occupe du ménage dans le camping Le Cheval Blanc pour rendre compte de la précarité de certaines personnes. Elle devient employée de cette société et travaille avec l'angoisse, la peur de voir surgir à l'improviste un employeur. Florence Aubenas et ses collègues subissent des remarques désobligeantes sur la qualité du travail rendu ou de leur conduite. Ils doivent toujours faire plus et mieux. Ils ont des salaires très bas et travaillent pourtant très dur. Florence Aubenas veut témoigner des conditions de travail difficiles et des personnes non qualifiées.
Nous allons donc vous montrer quelques extraits de ce texte qui vont vous faire comprendre la situation des esclaves.
Alors que l'une ou l'autre est en plein travail, un des dragons surgit parfois à l'improviste. Elle nous fait compter, laver, polir une à une les petites cuillères, les casseroles, les tasses à café, toute cette brave vaisselle de ménage usée par des bataillons de touristes, comme s'il s'agissait de sa propre argenterie de famille. Je cours d'une chose à l'autre, maladroite, toujours en retard d'un reproche. Ici, sur la cafetière électrique, on voit encore une marque brune. Là, derrière le frigo, il faut passer un coup. Pour faire briller l'évier en inox, seul le vinaigre blanc donnerait résultat impeccable. Comment ? Vous n'en avez pas dans votre matériel ?
Merci pour cette lecture de texte de Florence Aubenas. Nous allons maintenant vous parler de Iqbal Machi.
Je vais donc passer la parole à Tristan, qui va nous expliquer ce que Iqbal Machi a fait contre l'esclavage.
Iqbal Machi est encore qu'un tout petit enfant pakistanais lorsque ses parents l'ont vendu pour éponger la dette familiale.
C'est une autobiographie, non ?
Oui, c'est ça. À 4 ans, Iqbal rejoint une de ses fabriques de tapis qui exploite déjà 8 millions d'enfants. À 10 ans, l'enfant esclave a déjà une tête de vieillard et les mains ravagées d'avoir noué 12 heures par jour et pendant 6 ans de prise de tapis revendue à prix d'or en Occident. Un jour, en 1993, son calvaire prend fin grâce à Eshan Khan, président de la Ligue contre le travail des enfants. Son libérateur l'arrache de son métier à tisser pour lui redonner le goût de vivre et l'arrache de se battre. Iqbal devient alors le symbole de la jeunesse martyrisée. Il parcourt son pays et le reste du monde afin d'alerter l'opinion internationale. En janvier 1995, il participe à une convention contre l'esclavage des enfants à Lahore. Le 16 avril 1995, il meurt assassiné à 12 ans. Il avait reçu des menaces de la mafia de l'industrie du tapis. Comme l'affirmait Eshan Khan, la police pakistanaise écrira dans son rapport « L'assassinat résulte d'une dispute entre Pakistan et Iqbal, paysan et Iqbal. »
Mais comment son histoire est-elle racontée ?
Son histoire est racontée à travers des poèmes et des histoires. On peut trouver « Iqbal, l'enfant esclave » de Richard Werly ou aussi « The Little Hero » Andrew Croft, mais aussi le poème de Boris Brenchalov et aussi d'autres livres sur sa vie existent.
Maureen va donc nous lire le poème de Boris Brenchalov.
Il s'appelait Iqbal, vivait au Pakistan, il est mort d'une balle, ce n'était qu'un enfant. Iqbal était esclave depuis l'âge de 4 ans, enchaîné à l'ouvrage vendu par ses parents. Un beau jour libéré, il porta témoignage, ignorant le danger porté par son courage. La mafia du tapis ne l'a pas supporté et lui ôtèrent la vie pour le prix à payer. Il s'appelait Iqbal, avait juste 12 ans, il est mort d'une balle, ce n'était qu'un enfant.
Mathéo va donc maintenant nous parler des du comité contre l'esclavage avec le témoignage d'une victime nommée JM.
Je vais appeler Madame JM, Madame Jade, Madame EB, Madame Elisabeth et Madame B, Madame Béatrice. Le lundi 27 mars 2017 s'est ouvert devant la 31e chambre du tribunal de Paris un procès pour la traite des êtres humains. La victime, Madame Jade, de nationalité philippine, a en effet porté plainte pour la traite des êtres humains. Le 19 février 2015, au commissariat de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, elle est accompagnée par le comité contre l'esclavage moderne. Depuis le 21 mai 2015, la victime a travaillé de septembre 2014 à février 2015, 100 jours de congé, d'environ 6 heures du matin à 22 heures, au domicile de Madame Béatrice.
dans le 15e arrondissement de Paris, où elle effectuait la totalité des travaux domestiques. Madame Jade était chargée par Madame Béatrice et Madame Elisabeth de l'entretien des appartements mis en location d'une superficie de 100 et 160 mètres carrés. Madame Jade était alors enfermée par ses employeuses dans les appartements pendant son travail. Ces dernières ne lui fournissaient aucun repas au cours des journées qu'elle y passait. Elle était aussi chargée des tâches ponctuelles dans le bar à chicha dont Madame Elisabeth était gérante. Madame Jade dormait dans le salon, sa rémunération était de 400 euros par mois, envoyée en majorité directement à sa famille au regard de ses conditions de travail et de vie. Madame Jade était tellement isolée et dépendante de ses employeuses, elle s'enfuit du domicile début février 2015.
Merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Toutes les questions concernant l'esclavage ont en partie été posées. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée sur Radio Franca.
Bien, nous avons fini notre chronique sur l'esclavage. Je remercie les 5 groupes de nous avoir parlé et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une excellente journée avec Radio Franca 91.7. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.